Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Éric Fisset s'est fait une spécialité des voyages en solitaire. Il a choisi comme mode de déplacement la marche, mais il pédale aussi, et parfois écrit. Il nous raconte son parcours de voyageur et sa passion de l'ailleurs qui l'a amené à créer la société d'édition Transboréal. Via les livres qu'il édite, il aime à partager le regard des voyageurs ayant une démarche particulière. Rencontré lors d'un festival, Éric nous présente sa vision du voyage et revient sur le chemin de sa vie.
Alors pour moi, le voyage, c'est le fait de se rendre disponible et partant beaucoup plus réceptif pour vivre, tout simplement. Ce qui me frappe, c'est que lorsque je suis à Paris, moi je suis de la banlieue parisienne, de Meudon, mais je vis actuellement à Paris. Lorsque je suis à Paris, je ne suis pas attentif au boulanger, je ne suis pas attentif au marchand des quatre saisons, je ne suis même pas très attentif aux gens. Et dès que je me mets en route, dès que je prends le temps, eh bien je commence à m'intéresser à nouveau aux autres, à m'intéresser à nouveau aux gestes de la vie quotidienne, à ce que pensent les gens, je pose des questions. Voilà, je suis en route, je deviens réceptif et éminemment disponible à tout ce qui surgit. Et le voyage, pour moi, c'est quelque chose qui me permet d'échapper à la routine. La routine qui fait que, finalement, on sait qui on va voir dans la journée, on sait où on va manger, on sait où on va dormir. Le voyage, pour moi, est complet et fantastique et idéal lorsque, jour après jour, je ne sais pas ce que je vais manger, où je vais dormir, qui je vais rencontrer, ce que je vais apprendre, ce que je vais découvrir comme paysage. Voilà, chaque jour, la nouveauté fait que je m'émerveille et donc que j'apprécie pleinement le déplacement que j'entreprends très souvent quand même à la force de mes jambes puisque je réalise souvent des voyages à pied, à la force de mes bras puisque j'ai effectué quelques voyages en kayak, parfois aussi à vélo, à la rame, à ski, que sais-je.
Et cet esprit du voyage que tu habites dans l'itinérance quand tu es en déplacement, est-ce que c'est quelque chose que tu arrives quand même à reproduire, cet esprit-là, dans ta vie parisienne, ou est-ce que tu as vraiment besoin de couper avec le cadre qui t'entoure pour retrouver cet esprit ?
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage.
Regarde ailleurs.
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Oui, j'ai besoin de couper. C'est-à-dire que maintenant, je suis auteur de récits de voyage, je suis éditeur et j'ai aussi créé une librairie de voyage. Donc jour après jour, dans le cadre de Transboréal, nous rencontrons des voyageurs.
Mais c'est le voyage qui t'a emmené vers l'édition. Tu étais voyageur avant d'être libraire.
Oui, tout à fait. Moi, en réalité, j'ai été amené au voyage tout d'abord par la lecture enfant de la mythologie. J'étais passionné par la mythologie grecque, finnoise, que sais-je encore, indienne, bien sûr. Donc c'est la mythologie. Ensuite, il y a quelques lectures, Jack London, mais plus que Jack London, c'est le 2 ans de vacances de Jules Verne, cette histoire d'un groupe d'enfants qui échoue sur une île qui pendant 2 ans doit se débrouiller. Donc ces livres-là m'ont fasciné. J'étais issu d'un milieu familial très strict, très catholique, très, très, très gentil, hein, très humain, mais très strict, et j'étouffais un peu. Et donc à l'âge de 13 ans, souvent je partais en vallée de Chevreuse à pied pour le week-end, pour la journée. Et comme j'avais envie de m'endurcir, je mettais des pommes de terre dans mon sac qui me servaient à rien, strictement à rien, mais voilà. Donc je marchais en vallée de Chevreuse, je rentrais à Meudon, chez moi. Et puis à 16 ans, j'étais bachelier déjà, j'ai essayé d'entreprendre des études, mais j'étais un petit peu perturbé par la division de l'Europe en blocs Est-Ouest. Et là, j'ai fugué, je suis parti à pied de Paris jusqu'en Allemagne, en ayant très très peu dans le sac, puisque j'avais pas d'argent. Tout ce que j'avais, c'était des morceaux de sucre, et puis du Rickless pour mettre sur les sucres, voilà. J'avais rien d'autre, donc je quémandais des fruits pourris dans les épiceries, j'ai crevé de faim. Et j'ai vécu comme ça, donc 2 mois. Je suis rentré à Paris et là j'ai contacté le journal Le Monde, je voulais être correspondant, je voulais faire le tour du monde. Évidemment, ils ne m'ont pas reçu, j'étais comme un clochard, mes vêtements étaient sales, j'étais barbu, etc. Et mes parents avaient compris que j'avais vraiment le désir du large, de partir. Et il se trouve que dans ma ville, il y avait un hôpital qui était en train d'être préparé pour aider les réfugiés cambodgiens de Thaïlande. Donc c'était en 1979, à l'automne, au moment de l'exode massif des Cambodgiens à la frontière thaïlandaise, que je suis parti. Et là, pendant 2 ans, j'ai travaillé dans l'humanitaire, mais j'étais très déçu parce que finalement la relation que nous instituions avec les gens était faussée par la guerre civile, la famine en Ouganda, le tremblement de terre en Algérie, le désordre au Tchad où nous sommes intervenus. Et au bout de 2 ans, j'en ai eu assez de la chevalerie humanitaire et des gens qui prétendent aider les autres mais qui finalement s'en mettent plein les poches ou résolvent des problèmes personnels à l'étranger. Et là, j'ai voyagé en Afrique centrale, j'ai essayé de développer de l'artisanat, import-export. Et puis j'ai été très vite mêlé à des histoires pour dégommer Mobutu. Ça a évidemment échoué puisque Mobutu a eu encore quelques belles années de pillage du pays devant lui, au Zaïre. Et j'ai joint l'armée française, j'ai été officier parachutiste pendant 2 ans avec une intervention au Gabon. Et voilà que j'avais passé 6 années à voyager et 6 années sans voyager. Je portais l'uniforme, j'étais dans des circonstances exceptionnelles, je vivais clandestinement, voilà. Je me suis dit, ça va pas, il y a un problème, c'est du voyage sans voyage. Et avec les économies que j'avais réalisées à l'armée, eh bien, je suis parti faire le tour de l'Europe à pied pendant 2 ans. Donc 13 000 km, 17 pays d'Europe, du nord, de l'est et du sud. Et c'était un grand moment parce que jour après jour, j'ai composé mon itinéraire. Et parce que j'ai établi beaucoup d'amitiés avec 250 familles en Europe, que j'ai suivies après pendant des années, qui m'ont écrit. Donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'intense. Dur aussi, j'ai pris conscience que, quoique ancien officier parachutiste, formé et entraîné, la marche sac au dos avec du ravitaillement, pas mal de vêtements pour l'hiver, où j'étais en Scandinavie, etc., bon, bah, c'est toujours un effort. On ne s'habitue pas à la marche avec un sac lourd. Mais voilà, j'ai fait ça et j'ai pris conscience que, alors que je voulais aller vers l'Inde, la marche allait absorber trop de mes forces. Et là, j'ai choisi le vélo. Pendant 2 ans et demi, j'ai voyagé jusqu'en Inde à vélo, en faisant beaucoup de détours.
Mais quelles étaient tes ressources à l'époque ? C'était les économies que tu avais pu faire avant ? Ou est-ce que tu arrivais sur le voyage à générer un modèle économique ?
Ah non, non, non. Moi, quand je suis en voyage, je ne veux pas travailler. Au sens où travailler à l'étranger, c'est souvent être en porte-à-faux avec la législation. C'est souvent travailler avec d'autres étrangers, donc être coupé du pays. Ça ne m'intéresse pas du tout. Alors parfois, j'ai ramassé des oranges en argolide en Grèce. J'ai aidé des marchands de tapis turcs à faire des photos de tous leurs tapis. Mais voilà, c'était plus pour aider que pour faire de l'argent. Non, non, moi, je réalise un petit pécule avant de partir. Alors, je fais des articles, des conférences. Je pars et voilà, à l'époque, dis-moi, je refaisais des conférences, des articles et je recommençais. Et puis, de fil en aiguille, au moment de la chute du mur de Berlin, eh bien, je me suis à nouveau senti appelé par l'Est parce qu'il y avait une grosse menace qui pour moi a disparu ce jour-là. Et je me suis beaucoup intéressé à la Sibérie. Et la Sibérie et l'Alaska se rapprochaient. La Tchoukotka et l'Alaska plus exactement se rapprochaient. Et je me suis dit, bon, la Sibérie c'est encore un peu difficile d'y voyager, donc je vais aller en Alaska, je vais m'entraîner à marcher dans la taïga, la toundra, je vais mieux connaître les ressources de la nature, les baies, etc., les animaux. Et puis à terme, j'irai en Sibérie. Et il se trouve que l'Alaska m'a appelé par 3 fois, puisque j'ai passé une première année, j'ai fait une traversée nord-sud-ouest de l'Alaska. Et quelques années plus tard, alors que j'avais entrepris un voyage en Asie du Sud-Est à pied sur la piste Ho Chi Minh, j'ai voulu retourner ensuite en Alaska, 1 an et demi, de Seattle jusqu'au détroit de Bering, en kayak, à pied, à l'aide de chiens de traîneau. Et puis j'y suis même allé une 3e fois, à nouveau sur le détroit de Bering. Et finalement, je n'ai que mis tardivement les pieds en Sibérie, en 2005, en 2006, au Kamtchatka, dans l'Altaï russe. Et mais voilà, donc de fil en aiguille, à travers cette expérience de l'Alaska, qui a été très riche, où j'ai réussi à comprendre un grand nombre de problématiques, notamment sur la vie de subsistance, sur les questions d'identité liées aux Indiens et aux Esquimaux, je me suis dit que ce n'est pas à travers des articles que j'allais pouvoir rendre compte de tout ce que j'avais cru comprendre. Et j'ai écrit un livre, un premier livre, Dans les pas de l'ours. Et je repartais sur un autre voyage, donc mes amis, tous les gens qui me connaissaient à Meudon, et à l'époque ils étaient nombreux, eh bien, moi j'étais le livre pour m'aider à repartir. Voilà, je suis reparti. Et ce livre, je l'ai publié au sein d'une société que j'ai créée qui s'appelle Transboréal. Et voilà que des années plus tard, je reviens, je fais un livre chez Flammarion, un film avec France 3, et j'espère arrêter de publier des livres chez Transboréal, passer chez un grand éditeur. Mais j'étais déçu par mes 2 collaborations. Et donc, eh bien, j'ai pris la décision de développer Transboréal et d'ouvrir donc la société Transboréal à d'autres auteurs. Ça, c'était à la fin de 1997. J'ai créé une collection de récits, une collection d'albums et nous faisions nous-mêmes à Transboréal la diffusion et distribution auprès des libraires.
Thank you.
éducation avec un cadre relativement strict. J'imagine que c'était aussi hors cadre de faire ce que tu as fait, voyager seul, souvent dans le cadre institutionnel français, c'est créer une famille, c'est se poser, trouver un équilibre financier. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Comment est-ce que tes parents, finalement, ont accepté cette différence?
Mes parents ont du mal à accepter parce qu'effectivement, ils ont... Les parents disent toujours, le métier, la retraite, les enfants, la famille. Et certains que, moi je n'ai pas réellement de métier, même aujourd'hui. Je n'arrive pas à me rémunérer véritablement dans le cas de Transboréal. Je n'ai pas de retraite, je n'ai pas de sécu, à proprement parler. Donc tout ça, c'est une manière de vivre un peu particulière. Et qui fait que mes parents au début étaient gênés par tout ça. Mais lorsqu'ils ont vu que je commençais à acquérir une certaine notoriété, à l'échelon local, pas à l'échelon national et tout, ça les a un peu rassurés lorsque leurs amis leur ont dit « incroyable ce que fait Aymeric ». Voilà, tout ça, ça les amène finalement à considérer sous un jour meilleur ce que j'entreprenais. Et puis évidemment, le livre ou les livres après, ça met aussi une caution à tout ça. Donc finalement, aujourd'hui, c'est parfaitement intégré, même si aujourd'hui, je ne suis plus à proprement parler voyageur parce que je n'entreprends pas des voyages aussi longs. Même s'ils ont toujours une connotation sportive. La dernière fois que je suis venu à Colmar, c'était à pied l'an passé. J'ai marché de Dunkerque jusqu'à la Vanoise, en passant par les Vosges du Nord, et puis l'Alsace, plus tard, ensuite la Franche-Comté, le Jura. Donc ils ont toujours une connotation quand même physique, un investissement physique important. Mais évidemment, ce ne sont plus des voyages aussi longs. L'an passé, j'ai marché pendant 3 mois. Voilà.
Comment tu choisis tes itinéraires? Parce que tu me parlais des Khmers, de Pol Pot, du Cambodge, tu parlais de Mobutu, donc on passe d'un continent à un autre. Quel est le fil rouge finalement pour d'un voyage à un autre?
Alors, le fil rouge, c'est des pays qui m'intéressent. Par exemple, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au Cambodge, c'était en 1977, tout simplement parce que mes parents ont hébergé une femme, veuve de guerre, et son fils, qui sont devenus très proches. Et donc en 1977, j'avais lu déjà « Cambodge année zéro » de François Ponchot, qui commençait à évoquer le génocide des Khmers rouges. Et c'est pourquoi j'ai désiré aller aider les Khmers en 1979. Et par chance, vraiment, c'était un concours de circonstances, j'ai pu le faire.
Tu t'es jamais perdu sur la route, tu savais où tu allais. Tu avais toujours un cap, une direction.
Oui, j'ai toujours un projet, disons. J'ai toujours un point à atteindre ou un sujet de préoccupation que je souhaite approfondir. Voilà, ce n'est pas une errance. Je pense que j'ai rencontré beaucoup de Français, voire d'étrangers en voyage qui finalement étaient dans une forme d'errance. Et moi, mon problème, c'est que le désir ne s'émousse pas. Le désir du lieu, l'envie de mieux comprendre, l'envie de partager, de parler, etc. ne s'émousse pas. Et c'est très difficile, c'est très difficile. D'ailleurs, une expérience forte qui m'est arrivée, c'est à mon retour de l'Inde, au bout de 2 ans et demi de voyage. Je suis arrivé donc à Paris et pendant 3 semaines... J'ai visité Paris comme un étranger, j'ai regardé Paris comme un étranger, c'est-à-dire que tout me semblait neuf et nouveau. Il y avait même des personnages qui avaient surgi dans l'actualité dont je n'avais pas idée. Tout le monde me disait « Mais comment ça, tu ne connais pas ? Tu connais pas tel chanteur, tu ne connais pas telle personne politique et tout ?» Je dis « Mais non, quand je suis parti, ils n'existaient pas, tout simplement. » Et ça, c'est très très étonnant. Et bien moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'arriver à être émerveillé. Et il y a une usure, et ça évidemment Bouvier l'a écrit, l'usage du monde, mais c'est aussi une forme d'usure du monde qui fait qu'on peut se réfugier dans des auberges de jeunesse où finalement il y a un monde qui s'est recréé avec plein d'étrangers, etc. On peut se réfugier dans le fait d'être hébergé par une famille et de plus arriver à repartir. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir du mal à repartir parce que tout simplement on a perdu son objectif, et on est retombé dans une routine où on sait ce qu'on va manger et où on va dormir. Et lorsqu'on est en vrai déplacement, qu'on ne se soucie plus du gîte et du couvert, c'est là qu'on se libère. Et c'est là que, peu importe s'il pleut, s'il vente, si la tente est mal installée, tout ça n'a plus aucune importance lorsqu'on est parti plus de 3 semaines. Et jour après jour, on a résolu les problèmes de la vie quotidienne.
Là, on est vraiment dans l'instant présent. Il n'y a plus que le présent qui compte.
Voilà, exactement. C'est ce qui m'intéresse.
Est-ce qu'on arrive, ou comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à retrouver cet esprit-là dans le quotidien? Parce que c'est ça, finalement, peut-être l'enjeu du voyageur, c'est des fois de préserver cette qualité, d'être émerveillé partout, à chaque instant.
Eh oui, eh bien, moi j'y arrive pas. J'y arrive pas. En fait, il faudrait peut-être envisager une vie de tension intérieure qui serait, par exemple, à mon sens, peu dormir, très peu manger, à la limite, être toute la journée sans avoir mangé, de façon à ce qu'il y ait cette forme de tension qui fasse que on est autre. Parce que sinon, on se laisse tellement prendre au piège, effectivement, que c'est difficile. Oui, moi j'ai toujours écrit. Malheureusement, je suis incapable d'écrire jour après jour, au sens où il y a des périodes où j'écris jour après jour de manière très très détaillée. C'est terrible parce que c'est inexploitable. Et puis des périodes entières où je ne suis pas dépressif, mais disons, voilà, je n'écris pas. Et j'ai toujours l'impression d'être en retard dans ce que j'ai besoin de noter. C'est terrible parce que lorsqu'on est en voyage et qu'on passe du temps à écrire, c'est du temps qu'on passe en moins auprès des personnes. Et lorsque les personnes vous reçoivent et elles viennent de vous voir, elles vous invitent chez elles et que vous dites, bah écoutez, il faut me laisser 2 heures pour écrire, c'est très frustrant, notamment dans le monde musulman. En Syrie, par exemple, j'étais extrêmement bien accueilli tout le temps et finalement, vous ne pouvez pas échapper aux personnes. Ce n'est pas possible. Donc, écrire en voyage, c'est douloureux. Si j'écris trop, je me coupe de la réalité dans laquelle je baigne. Et si j'écris pas, je l'oublie. Que dois-je faire ? Non, c'est un arbitrage difficile. Mais j'ai un avantage dans ce cadre, c'est que je fais pas mal de photos. Et aussi, lorsque je voyage à pied, je mémorise absolument tout. C'est-à-dire que la carte est réellement une manière pour moi de tout mémoriser. Surtout lorsque je traverse des régions où il y a très peu de routes et où j'ai dû réellement composer mon itinéraire. Traverser des rivières à la nage, trouver un col, traverser la taïga, la toundra, éviter un marécage, le méandre d'un fleuve. Eh bien, le fait, à des années de distance, notamment pour mes voyages en Alaska notamment, à des années de distance, de reconsulter les cartes, en Alaska j'en avais utilisé 50 ou 250 millièmes, ça me permet de tout revivre, à un point incompréhensible. Et ça, c'est le voyage à pied qui le permet.
Tu veux dire que tu aimes sortir une carte, faire la lecture de cartes, te remémorer ce que tu as vécu, c'est ça ?
Non, pas forcément, parce que ce que j'ai vécu, je l'ai quand même écrit. Mais par exemple, la lecture des cartes de mes voyages à travers l'Alaska, les quelques notes que j'avais, et j'en avais pas mal selon les périodes, notamment je prends beaucoup de notes sur les gens, pour ne pas dire d'erreurs à leur sujet, sur leur âge, sur leur parcours de vie, etc. Là, je prends des notes. Mais sur le cadre général qui est le paysage, ce qui s'est passé jour après jour, je prends assez peu de notes, parce que les cartes et les photos me permettent de tout reconstituer. De tous mes voyages à pied, je peux réciter la liste des villages, des villes visitées, des provinces, des régions, etc. Voilà.
Donc on revient en 1997, c'est là où tu te lances dans l'aventure de l'édition ?
Oui, tout à fait. Donc fin 1997, je me dis, si je ne veux pas radoter à vie sur mes voyages, il faut que j'ouvre à d'autres la maison d'édition naissante. Et j'avais un ami qui avait fait le tour du monde à la voile avec un coéquipier qu'il me présente. Et là, nous préparons un album photographique, Il est 40e. Une amie qui me présente, un de ses amis qui avait un manuscrit, une sorte de roman, un récit romancé sur le Spitzberg, et je le convainc de faire un album photographique sur le Spitzberg. Et puis une autre amie qui me dit qu'un de ses amis a un manuscrit sur une descente du Yukon en canoë. Même chose, voilà, là on fait un récit et je republie dans Les Pas de l'Ours mon premier récit. Donc nous commençons avec 2 récits et 2 albums. Alors ça a été une expérience terrible pour moi parce que c'était quand même les débuts de l'informatique populaire, si j'ose dire. J'avais un tout petit écran d'ordinateur, c'était les PowerBooks. Et c'est sur ce petit ordinateur que j'essayais de tout faire.
Quelle est la direction que tu as voulu dès le départ donner à Transboréal et quelle est la direction que Transboréal a aujourd'hui ?
Alors comme vous le comprenez, dans Transboréal, il y a Boréal. Donc au départ, c'était beaucoup des voyages intenses, d'efforts. Par exemple, nous avons publié Kimafes, qui a traversé pendant 1 an et demi le Canada en canoë. Moi, j'avais passé 2 ans et demi en Alaska, j'ai fait 2 récits. Il y avait un tour du monde à la voile de Gérard Janichon, qui était une réédition du livre paru chez Artaud. Donc c'était vraiment le voyage au long cours, le voyage engagé, avec une connotation un peu extrême, Grand Nord, Grand Sud, Patagonie, Spitzberg. Mais Transboréal, même si nous privilégions, notamment dans la collection Sillage, les voyageurs au long cours, est une maison d'édition qui va incarner toutes les formes de voyage. Et si possible, toutes les régions. Tous les lieux nous intéressent, tous les pays nous intéressent. Alors nous avons quand même quelques spécificités. Le voyage au long cours engagé, à la voile, à pied, en kayak, avec des chiens de traîneau. Nous avons des régions de prédilection, l'Asie centrale, la Haute-Asie, l'Amérique du Sud, le Grand Nord. Voilà. Mais là, je meurs d'envie l'année prochaine et ça va se produire de publier quelque chose sur l'Australie. Nous n'avons absolument rien sur l'Australie, donc il n'y a pas de raison.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
On peut dire réellement que Transboréal t'a permis de garder un pied dans le voyage tout en étant ici en France ?
Ce qui est intéressant à fréquenter des voyageurs, effectivement, c'est qu'on apprend beaucoup de choses sur la géographie. Et parfois même, comme maintenant, j'ai pas mal voyagé, mais j'ai aussi beaucoup fréquenté des voyageurs. Je connais par exemple le Kyrgyzstan assez bien, sans y être allé. C'est-à-dire que je connais davantage le Kyrgyzstan que quelqu'un qui a séjourné 15 jours dans le cadre d'un voyage organisé, voire qui a séjourné un mois dans le cadre d'un voyage. Parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, il y a plusieurs livres, donc à chaque fois je vérifie les noms de la géographie, les dates historiques, on vérifie tout à Transboréal. Donc voilà, ça c'est intéressant, c'est un peu du voyage par procuration, mais je pense aussi qu'il y a une évolution majeure qui s'est produite pour moi, qui n'est pas seulement l'âge que j'ai pris, hein, j'ai aujourd'hui 50 ans, 51 exactement, c'est le fait que les problématiques écologiques, notamment les perturbations engendrées par les voyages, du fait de l'utilisation de l'avion, mais aussi les perturbations économiques. Lorsque j'étais en Égypte, c'était en 88, c'est très ancien, traverser en barque, en felouk, le Nil à Louxor, ça coûtait beaucoup plus cher que partout ailleurs en Égypte, tout simplement parce que c'est ce que faisaient les touristes. Et du coup, le paysan égyptien, pourquoi lui devait-il payer plus cher parce que les touristes venaient à Louxor ? Eh bien, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des bouleversements économiques majeurs qui sont générés par les activités touristiques, et ça, c'est préoccupant. Et donc, je crois aussi que, du fait de l'évolution générale de la planète, on ne peut pas aller quelque part, tout simplement parce qu'il y a un billet pas cher, parce qu'on a une offre, etc. Il faut aller quelque part parce qu'on a vraiment désiré ce lieu. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, lorsque je vais quelque part, je réfléchis davantage qu'autrefois, peut-être, à l'impact que je vais avoir sur ce lieu. Et mon désir, parce que j'ai pensé à ça, j'ai lu sur le lieu en question, sur le pays en question, mon désir va croître, va être plus fort, et du coup aussi ma réceptivité au milieu va être plus grande. Je crois que c'est important.
Quelle est la différence ? Comment est-ce que toi tu définirais le touriste et le voyageur ? Qu'est-ce qui différencie d'un touriste d'un voyageur ?
D'abord, je pense que le touriste inscrit son déplacement dans une période très limitée dans le temps. C'est 15 jours de vacances, voilà, qu'il souhaite employer pleinement et donc dont il va confier une partie de l'organisation peut-être à une agence, que sais-je. Je pense que le voyageur déjà est plus souple sur les questions temporelles, ça c'est très important. Il va se laisser plus aller à la rencontre. Il va peut-être même, du fait de sa réceptivité au pays, etc., voir sa vie changer. Nous avons à Transboréal des voyageurs qui vivent maintenant l'un dans une estancia en Patagonie, à l'époque, Patagonie argentine. À l'époque, il était avocat fiscaliste. Maintenant, il a une estancia avec plus de 1000 moutons, 100 chevaux, etc. J'en ai un autre qui a épousé une femme d'Argentine et qui vit dans la Quebrada de Humahuaca, au nord-ouest de l'Argentine. Nous avons Sébastien Jalad qui vit à Lima. Donc voilà, très souvent, nos auteurs, disons, se sont laissés influencer, en fait, par un voyage qui a littéralement modifié leur vie. Donc ça, c'est important, c'est de se laisser imprégner, prendre le temps et puis approfondir aussi le pays qu'on visite et du fait des liens qu'on a établis, continuer à l'approfondir.
Donc le voyageur apprend à lâcher un cadre pour s'immerger complètement dans une structure sociale, une structure culturelle et s'en imprégner.
Oui, ça c'est évidemment c'est le cas ultime. Et tout le monde n'a pas cette possibilité-là du fait de ses engagements professionnels, familiaux. Il y a certains, par exemple, à quelqu'un qui a des parents malades ou qui a un enfant handicapé ne peut pas évidemment tout abandonner pour être dans le voyage, vivre d'idées de voyage. Mais effectivement, je pense que le voyageur établit un lien privilégié avec une région du monde, une problématique. Et c'est ça ce qui fait que son regard est plus aiguisé. Et s'il est amené à produire des articles, des livres sur le sujet, il doit encore davantage approfondir son sujet.
Donc oui, la lecture est un moyen d'inspirer le lecteur et de lui permettre de s'évader, peut-être même d'un jour, comme tu l'as fait, prendre la route. Qu'est-ce que tu auras envie de partager avec nous comme récit d'aventure ?
Moi, j'ai envie de parler du livre de mon collaborateur, Marc Allot, qui travaille avec moi depuis 10 ans, et Marc, depuis le même temps, depuis plus de 10 ans, se passionne pour la Mongolie, et donc a écrit un livre, Sous les yourtes de Mongolie, dans lequel il fait part de ses voyages. À l'époque, il y en avait 4, ses marches à travers la Mongolie, mais aussi où chapitre après chapitre, il essaie de développer une problématique. Alors le symbolisme de la yourte, la place de la femme dans la société mongole, le passage à l'économie de marché, la steppe, la figure de Genghis Khan, etc. Donc ce qu'il y a d'intéressant dans son récit sous les yourtes de Mongolie, c'est justement que l'on déborde le strict cadre du voyage pour aborder des thématiques historiques, culturelles, contemporaines, et ça c'est très bien. Très souvent dans les récits de voyage, on en reste à des problématiques historiques. Et le regard finalement sur la société contemporaine, on l'a, mais à travers un dîner dans une famille ou à travers un événement particulier avec les gardes frontières. Tandis que analyser en voyage la société contemporaine dans laquelle on évolue, ça c'est plus difficile. La curiosité de Marc Allot s'exprime dans toutes les directions. Et puis il y a deux autres livres, si je puis me permettre, que j'aime beaucoup. Christophe Houdaï était un des auteurs des premiers temps de la maison d'édition, a fait trois livres même chez nous. Il y en a deux que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Un livre qui s'appelle « Au vent des Kerguelen ». Christophe Houdaï est l'une des rares personnes qui non seulement est passé au Kerguelen en voilier dans le cadre d'un tour du monde de 2 ans et demi, mais a eu le désir d'y retourner. Vous imaginez ce que c'est, les îles de la désolation décrites par Cook. Eh bien, il a réarmé le bateau à La Rochelle, il est reparti au Kerguelen où il a passé 1 an sur son voilier. Et alors, pour clore sa carrière nautique, mais je pense qu'elle n'est pas close, eh bien, il a entrepris un tour du monde à la voile de 7 mois en solitaire. Et c'est un récit que nous avons sorti qui s'appelle « Sans escale », qu'il a mis 15 ans à écrire parce que ces dernières années, il a travaillé dans une voilerie qu'il a créée en Irlande. Mais voilà, 7 mois en solitaire, sans escale. Et là, moi, je lui tire mon chapeau parce que je pense que ce qu'il a fait en termes nautiques, mais même en termes de voyage, c'est le plus extrême. D'arriver à raconter un voyage en solitaire sur tous les océans. Voilà.
Et pour continuer l'aventure, un site internet www.transboreal.com.
Transboreal.fr, oui. Alors la spécificité de notre site, c'est que d'abord, beaucoup de voyageurs sont présentés, 250 voyageurs, il n'y a pas seulement nos auteurs, tout plein d'autres voyageurs, mais aussi il y a beaucoup d'articles, beaucoup de photos. Sur chaque livre que nous avons publié, il y a des extraits, il y a des revues de presse, enfin il y a le sommaire, c'est énorme, c'est un site énorme. Et des fonctions de recherche très élaborées, avec recherche par domaine, spiritualité, géopolitique par exemple, recherche par mode de déplacement, à pied ou à cheval par exemple, recherche par sous-continent, par pays et par région. Et ça, c'est un peu ma fierté. On peut même rechercher des livres issus de la langue allemande, de la langue ouzbek. Voilà, donc je suis très fier de tout ça.
Merci, Emeric.
Oui, merci beaucoup. Au revoir, Alexandre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.